YouTube ou encore Twitter. Au revoir. I have a dream. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme. One nation, under God, indivisible, liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Amérique et vous sur VOA Afrique. Nous émettons depuis Washington DC aux États-Unis. Dans l'Amérique et vous de ce vendredi 28 mai 2021, nous parlons des questions raciales ici aux États-Unis. Un an après la mort de George Floyd sous le genou d'un policier blanc, le président américain n'a pas encore réussi, comme il espérait, à faire voter un texte contre les violences policières. Cette semaine, la famille de George Floyd a appelé le Congrès américain à protéger les personnes de couleur en votant justement une loi de réforme de la police après une rencontre hautement symbolique avec le président Joe Biden. George Floyd est devenu le symbole des victimes de violences policières aux États-Unis depuis sa mort le 25 mai 2020 à Minneapolis, lors de son arrestation par quatre policiers. Au plus profond de la lutte contre le COVID-19, les Américains d'origine asiatique ont eux aussi souffert des stigmatisations, accusés notamment d'avoir été associés à l'épidémie de la pandémie. Une pandémie que l'ex-président Donald Trump a plusieurs fois qualifiée de virus chinois. Plusieurs autres groupes aux États-Unis souffrent de discriminations et de stigmatisations. Autant dire que les questions raciales dans le pays restent d'actualité. Pour nous accompagner dans ce programme, nous avons comme invité Kadiatou Diallo. Elle est dans le Maryland. Son fils Amadou Diallo avait été tué par des policiers en 1999. Kadiatou Diallo, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
Merci donc d'être là. Pepita Koulibaly Krabbé. Elle est dans la région de Washington, D.C. Elle est présidente de l'ONG Main Tendue. Elle est également promotrice de la foire économique de Côte d'Ivoire. Pepita Koulibaly, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être bonsoir avec nous. Et nous allons à Minneapolis où George Floyd a été tué pour retrouver Ruben Joannen. Bonsoir.
Bonsoir, bien bonsoir, mesdames, messieurs.
Merci d'être donc là pour ce programme. Kadiatou Diallo, je vais commencer par vous. On le disait, votre fils Amadou Diallo a été tué par des policiers. C'était en 1999, 22 ans après. Comment vous vous sentez? Comment vous vivez cela? D'autant plus qu'on vous le rappelle presque chaque fois. Et selon vous, des progrès dans le comportement de la police ont-ils eu lieu?
Merci pour l'invitation et bonsoir à toute l'audience et les invités. J'ai eu à vivre cette tragédie depuis que mon fils a été abattu le 4 février 1999. À l'époque, j'étais en Afrique et j'ai fait la traversée. Je suis venue aux États-Unis pour demander à ce qu'on fasse lumière et justice. Parce que mon fils était un garçon sérieux qui travaillait et qui économisait son argent pour payer ses études universitaires. À l'époque, quand il y avait eu bavure policière, ce qu'on savait l'histoire de Rodney King et Abna Louima. Mais pour Amadou, c'était vraiment un cas que le monde entier se demandait comment ça peut se faire, 41 balles sur une personne. La police new-yorkaise était en train de vraiment brutaliser la communauté, surtout les communautés vivant dans le Bronx et les minorités en général. Donc depuis lors, j'ai milité avec les leaders politiciens comme les Al Sharpton, comme tout le monde. Il y avait un grand mouvement à l'époque et on a pensé que l'effort fourni allait être un résultat positif. Mais comme vous le dites déjà, avec George Floyd, depuis Amadou et maintenant George Floyd, il y a eu des milliers et des milliers de personnes dans le territoire des États-Unis que la police a abattu. Vraiment, ça, il n'y a pas eu de changement.
Il faut dire qu'entre janvier 2013 et mai 2021, la police aux États-Unis a tué au moins 9179 personnes selon les données compilées par Mapping Police Violence, un groupe de recherche et de plaidoyer. Depuis la mort de Floyd, il y a exactement un an, le groupe a enregistré au moins 1068 meurtres par la police à travers le pays, une moyenne de 3 meurtres par jour. Ruben Joannen, qu'est-ce que ces chiffres traduisent pour vous?
Ces chiffres traduisent la situation qui est de plus en plus alarmante au niveau des rapports des races ici aux États-Unis, qui veut dire les Blancs ont écrit dans leur mémoire collective en lettres d'or le fait que les Nègres, les Noirs, faisaient partie du gros bétail que les propriétaires blancs vendaient et achetaient en public. Maintenant, après l'émancipation, c'est l'institution policière qui s'est chargée de maintenir les Noirs en état de soumission parce qu'ils représentent un danger social qu'il faut réduire ou éliminer et coûte que coûte. C'est pourquoi, si vous avez des difficultés à vous rendre à l'évidence, il suffit de jeter un coup d'œil dans les prisons ici aux États-Unis. La population carcérale ne fait qu'augmenter de jour en jour. Donc, dans l'imagination des Blancs, les Noirs n'ont pas généralement,
On ne les voit pas comme des humains. Je rappelle à nos auditeurs que René Lec, analyste politique, nous a rejoint. Il est dans la région de Washington, D.C. Alors, René Lec, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, John.
Alors, entrez dans le vif du débat avec nous. Une autre analyse réalisée par le site internet policeviolencereport.org nous apprend que 27% des Noirs sont plus susceptibles d'être tués par la police, que 35% de Noirs sont souvent non armés et que 36% ne présentent pas une menace ou un danger lorsqu'ils ont été tués par la police. Qu'est-ce qui, selon vous, peut donc justifier ces chiffres qu'on évoquait d'ailleurs tout à l'heure, près de 10 000 morts depuis de 2013 à 2021 et plus de 1000 depuis un an, depuis la mort de George Floyd?
Mais écoutez, John, moi je crois, comme le disait un peu votre intervenant précédent, c'est qu'au fond, il en va ainsi depuis la nuit des temps, ou en tout cas au moins depuis la création de l'Amérique moderne, donc avec l'invasion européenne sur le continent américain où se trouvaient les Native Americans, les Indiens d'Amérique, et où ils ont amené de force des millions et des millions de Noirs pour les mettre en esclavage. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, quand il y a eu les premiers espaces de liberté dans la communauté mise en esclave dans ce pays? C'est là qu'a été créée la police. Et la police, son rôle principal était de maintenir les Noirs dans les plantations, de les ramener, etc. Donc c'est vrai qu'historiquement, c'est cela, la police dans ce pays, son rôle historique a été un rôle noir. Donc cela existe depuis la nuit des temps quasiment, c'est un peu provocateur en utilisant cette expression, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne le voyait pas ou on n'avait pas une conscience collective de cela. Donc qu'est-ce qui se passait? Cela se passait, mais bon, personne ne disait rien, c'était presque une situation normale. Mais avec les nouvelles technologies, je crois, le fait que maintenant tout le monde a un téléphone, donc c'est visible de ce point de vue, mais également le fait quand même qu'il y a eu aussi des avancées démocratiques. Et les avancées démocratiques ont mis la pression pour qu'il y ait ce qu'on appelle les body cams, les caméras corporelles que portent les policiers. En tout cas, dans pratiquement tous les départements maintenant du pays, c'est obligatoire. Cela fait que maintenant, ils ne peuvent plus continuer à dire « Ah non, non, faire de fausses déclarations ». Je vous rappelle que pour George Floyd, comme des tas d'autres cas, les déclarations officielles du département de police étaient des mensonges de la première ligne à la dernière ligne, littéralement. Donc, ce genre de choses ne sont plus tout à fait possibles, ne sont plus possibles en tout cas comme avant. Donc c'est beaucoup plus visible, donc ce qui fait que maintenant on est beaucoup plus au courant. Donc il y a une conscience collective qui est en train de se construire.
En tout cas, même avec ces caméras de surveillance, les rapports de la police restent toujours un peu contradictoires face à ce qu'on voit. Pepita Koulibaly, en tant que femme d'origine africaine vivant aux États-Unis, est-ce que vous, il vous est arrivé d'expérimenter justement la discrimination? Si oui, dans quel cadre?
Merci de nous avoir donné cette belle opportunité de parler du racisme. Comme diraient nous les Ivoiriens, Yako, Madame Diallo, pour le décès de votre fils que nous avons tous vécu et vu ici et pleuré avec vous. Que leur âme repose en paix. Quant à nous, les Africains, comme vous venez juste de demander, moi, quand je suis arrivée, j'étais à New York. Et mon premier boulot, c'était dans un McDo sur la 42e. Oui, nous avons vécu le racisme. Nos collègues nous disaient de retourner chez nous, qu'est-ce qu'on faisait ici. Et ce n'était pas de la bouche des Blancs, ce qui était surprenant. C'était de la bouche des Noirs eux-mêmes qui nous disaient ça. Et donc, c'est un peu l'oppression même d'un peuple au dédain d'un autre peuple, tu vois, qui les juge d'une autre manière ou par la couleur de leur peau ou leur origine. Comme l'analyste politique vient de dire, c'est des choses qui existent depuis l'esclavage.
Kadiatou Diallo, que faut-il faire pour éradiquer ces tueries de Noirs par la police ou toutes ces formes de stigmatisation que subissent certains groupes aux États-Unis? Il n'y a pas d'ailleurs que les Noirs, il y a aussi les Asiatiques. Madame Kadiatou Diallo, que faut-il faire?
Oui, merci à ma sœur qui vient de présenter tout à l'heure. Et l'analyste qui a mentionné qu'il y a maintenant ces caméras. Je me rappelle quand Michael Brown a été abattu, c'est en ce moment qu'on a milité pour que la police porte tous ces appareils-là. Mais parfois, il n'utilise pas les caméras comme c'est recommandé. Parfois, ils cachent. Même à Louisiana, tout à l'heure, il y a une famille green qui est en train de ça fait surface. Le jeune, là, on l'avait abattu et torturé. Et ils ont dit que c'était un accident. Donc, la police, ils font le cover-up tout le temps. Les gens ne doivent pas oublier cela. Avec le social media et les jeunes, la jeunesse aujourd'hui, des millions et des millions de jeunes qui font pression sur les politiciens, c'est ça qui peut nous aider pour avoir le changement démocratique et le changement pour qu'il n'y ait plus le racial profiling.
Joanne, vous êtes à Minneapolis. On a justement vu au grand jour ces images de la mort en plein jour, je vais me répéter ainsi, de George Floyd. Qu'est-ce qui est fait là-bas au niveau de Minneapolis pour éviter d'autres cas comme ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éradiquer les violences policières?
Oui, la lutte continue. Il y a d'énormes difficultés à voir les suprémacistes blancs en uniforme de police. Ils vont toujours continuer à semer la terreur parmi les Noirs. Mais il y a tellement de mobilisation au niveau de la jeunesse, au niveau des membres de la communauté noire. On milite pour vraiment commencer à voir les Noirs, les Asiatiques, les Autochtones d'un autre œil au niveau de la police. Donc, il y a beaucoup de choses qui doivent se passer. Et des changements au niveau des institutions qui doivent maintenant proposer des lois, des changements au niveau des statuts, au niveau des règlements, au niveau des conditions de la police pour essayer d'éradiquer. Voilà, ce fléau, un véritable fléau, comme on dit.
Le changement aussi, ça, c'est pour le budget. On a milité pour que le budget qu'on est en train de donner à la police, qu'on réduise ça et qu'on finance des programmes communautaires pour aider les communautés noires, vraiment sur le plan mental health. Ça pose un problème. Ensuite, sur le plan économique aussi, les corporations qui financent les politiciens, eux aussi, doivent jouer leur rôle.
Alors, René Lecq, si vous le pouvez, en quelques secondes. Joe Biden, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, avait justement promis de s'impliquer dans des réformes policières. Est-ce que c'est un défi qu'il peut relever lorsqu'on voit tous ces obstacles qu'il y a au niveau du Congrès? Ajoutons que chaque ville peut décider de réformer sa police ou chaque État.
Oui, tout à fait. Bon, mais c'est le seul problème si on passe par les villes ou par les États. Il y a 50 États, je ne sais combien de nombre de villes. Cela, on va jamais s'en sortir. C'est pour ça qu'il est important qu'il y ait une loi fédérale qui encadre l'ensemble des lois des différents États. Et c'est ce qui est en train d'être négocié. Il y a la congresswoman Karen Bass en relation avec le sénateur noir Cory Booker et un autre sénateur noir républicain, Tim Scott, qui est le seul sénateur noir républicain, qui sont en train de négocier ce qu'on appelle justement la loi George Floyd. Alors le point d'achoppement, c'est essentiellement le fait qu'ils ne sont pas encore tombés d'accord sur ce que l'on appelle un peu l'immunité quasi absolue dont bénéficient les policiers. Les démocrates souhaitent qu'elle soit complètement supprimée, en tout cas en bonne partie, et les républicains s'y opposent. Parce que cette immunité fait que la responsabilité civile du policier dans un acte abusif n'est pas mise en cause chez la ville qui prend en charge les frais légaux, etc. Et les démocrates disent non, si la responsabilité individuelle civile du policier était engagée, il se comporterait certainement différemment. Donc voilà où ils en sont. Mais John, je pense qu'il est tout à fait probable qu'ils arrivent à trouver un compromis dans les jours qui viennent.
Pépita,
je veux dire quelque chose rapidement. Je veux dire que c'est vraiment à applaudir parce que tout dépend d'un leader aussi quand il arrive dans le pays et qu'il met des points sur le racisme. On peut déjà applaudir le président Joe Biden qui est venu avec un langage de rassemblement et d'encouragement aussi au peuple, le fait de permettre aux gens de se traiter d'égal à égal. Et aussi de permettre au Sénat et à tout le monde d'essayer de voter une loi, même si ça sera pas facile, ça sera toujours difficile et combattu. Mais déjà le fait que le leader même prenne, c'est encouragé.
On va faire un dernier tour de table en attendant des réformes profondes sur la police aux États-Unis, aussi bien par le Congrès que par les États ou les villes peut-être. Quelle attitude les Noirs doivent-ils adopter lorsqu'ils ont affaire à la police? Je vais commencer par vous, Ruben Johannen, en quelques secondes.
D'accord, oui. Bon, et là, il faut éviter de donner aux agents policiers aucune raison, quoi que ce soit, pour vous abattre. Et il faut jouer et à la soumission totale avec eux. Parfois, ça finit pas très bien. Même si on est totalement soumis, on dit comply or die, mais parfois, on peut mourir même si on est totalement en soumission. Donc, c'est mieux de recevoir les contraventions ou quoi que ce soit que proposent ces agents de police et de vous retrouver à la cour avec ces messieurs au lieu que de les confronter en personne. C'est une sorte de suicide.
Kadiatou Diallo, dites-nous, que faut-il faire? Quels conseils vous pouvez donner aux autres pour qu'ils évitent ce qui vous est arrivé, d'autant plus que votre fils n'avait rien fait aussi?
Je voudrais, notre chairman David Dinkins, le défunt David Dinkins, qui avait dit, aux jeunes, à chaque fois, il disait, c'était le premier maire noir de New York, comply and then argue later. C'est-à-dire, il faut se mettre, comme notre invité vient de dire, il faut pas donner raison aux policiers. Mais il faut aussi savoir que la police, la discrimination raciale, ça existe. La police ne traite jamais les blancs comme ils traitent les noirs quand ils les approchent. Ça, c'est évident. J'ai fait l'Asie. Je sais aussi en Asie, il y a le racisme parce que Amadou a vécu là-bas pendant des années. C'est là-bas qu'il a fait ses études de high school. Donc, la discrimination raciale, ça existe, c'est global. nous tous devons essayer d'éclaircir nos cœurs pour qu'on s'accepte en fait. Et enfin, il ne faut pas oublier votre téléphone portable. Il faut toujours documenter, savoir le nom du policier et le badge. Et quand il y a un incident qui ne vous concerne pas, il faut vous mettre à l'abri pour ne pas vous mettre en danger et documenter ce qui s'est passé. Parce que George Floyd, le moment de George Floyd, c'est la fille qui a pris son appareil. C'est elle qui a changé le monde en fait. George Floyd a souffert. La petite là, c'est l'héroïne de cette histoire. Donc quand il n'y a pas de vidéo, quand il n'y a pas d'évidence, c'est zéro, parce que la police, ils font le cover-up tout le temps. Merci.
Pepita Koulibaly, en quelques secondes, que faut-il faire pour éviter d'être tué par la police lorsqu'on a affaire à elle?
Ben, je pense qu'il faut tout simplement coopérer. Il ne faut pas essayer de les contredire, parce que bon, ils se disent qu'ils sont les rois de la route et on n'y peut rien. Maintenant, concernant nous les étrangers, nous devons aussi éduquer les enfants à la maison en leur inculquant ce respect de la route et puis leur demander de ne pas trop se défendre quand la police les arrête. Vu déjà leur appartenance, leur provenance et tout, ils le savent et ils provoquent. Donc, le silence total, coopérer, prendre sa contravention, aller à la justice et se défendre. Voilà. Je pense que c'est un peu difficile parce que quand tu te sens agressé, tu veux tout de suite se défendre. Mais avec l'éducation que tu auras à la maison ou le fait de discuter de cela avec la famille, on peut essayer de temps en temps de se maîtriser et puis bon, prendre son mal en patience et aller régler cela en justice.
Alors, René Lec, le mot de la fin sur ces questions raciales aux États-Unis.
Oui, moi je partage le point de vue des différents intervenants, il faut coopérer. Mais le point principal pour moi, au-delà de ça, c'est que la police aussi, c'est le reflet du racisme systémique qu'il y a aux États-Unis, dans toutes les institutions, qu'elles soient politiques, qu'elles soient économiques, qu'elles soient législatives, dans le système judiciaire, bien entendu. Et c'est là où vraiment où le bas blesse. Et ça, pour que les choses changent, il faut s'engager. Et je pense que malheureusement, il n'y a pas suffisamment de Noirs et de minorités de manière générale qui s'engagent. Regardez les manifestations Black Lives Matter. Je suis allé à plusieurs manifestations Black Lives Matter ici à Washington et la majorité, c'était des Blancs. Les Noirs ça se comprend, hein, y a des raisons historiques à cela également, mais il faut que les Noirs, les minorités et les Blancs également, que tout le monde s'engage beaucoup plus. Il ne s'agit pas simplement de rester dans la dénonciation, il faut être dans l'action. Alors au niveau local, au niveau associatif, etc., il faut s'engager. Ça, je crois que c'est vraiment le mot clé, s'engager.
C'est entendu et c'est par ces propos que nous allons mettre fin à cette édition de l'Amérique et vous, émission produite et réalisée par Lionel Gaïma, présentation John Linden. Merci à nos invités et à vous d'avoir suivi. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com où vous pouvez réécouter cette émission ou vous informer sur l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.